Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche. Ce sont nos épisodes consacrés à un article, un dossier, un reportage publié par une ou un journaliste du territoire, mais qui n'est pas paru chez un de nos partenaires. C'est donc le cas avec un papier paru dans les Échos Week-end et qui s'appelle « Comment les influenceurs bousculent le monde du vin ». Cet article, c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Anne-Charlotte Delange.
Bonjour Jean.
Anne-Charlotte, votre nom est familier pour celles et ceux qui écoutent régulièrement Podcasting, et pour cause, vous en êtes la rédactrice en chef. Mais c'est avec un autre costume que vous venez nous voir aujourd'hui, celui de journaliste indépendant. Vous vous êtes donc intéressé pour les Échos Week-end à ces personnes dont la vie a de plus en plus de poids dans le milieu du vin, les influenceurs. Une question toute simple pour commencer, qu'est-ce que c'est un influenceur ?
Un influenceur, c'est tout d'abord évidemment soit un homme, soit une femme, mais qui, de par ses interactions sur les réseaux sociaux, va être prescripteur pour la consommation, en l'occurrence de vin, à travers des conseils, à travers un partage de ses goûts, de ses découvertes, et qui va donc influencer les goûts et les propres appétences de son audience, c'est-à-dire de ceux et celles qui le suivent, sur les réseaux sociaux, pour tel ou tel produit.
Qui sont aujourd'hui les influenceurs les plus importants dans le domaine du vin ?
Alors, dans le domaine du vin, déjà, il faut bien faire la différence entre qu'est-ce qu'on considère comme important. C'est-à-dire qu'on peut être important de par son renom, de par sa célébrité, c'est-à-dire que les grands critiques de vin qui jouissent déjà d'une certaine réputation sont considérés comme des influenceurs importants. Certains autres, on va dire anonymes, ou qui n'ont pas le même historique dans le monde du vin, peuvent parfaitement, de par le nombre d'abonnés qui les suivent, bénéficier ou avoir une réputation tout aussi importante. Aujourd'hui, vous vous trouvez donc parmi les influenceurs du vin, on va dire les plus parlants, si je puis dire, vous trouvez aussi bien des sommeliers français ou étrangers, des critiques de vin, des journalistes, mais aussi des trentenaires qui se sont emparés des réseaux sociaux pour partager leur passion sur Instagram principalement, et interagir avec une audience et faire découvrir leur propre vin, mais enfin les vins qu'eux-mêmes ont découverts, et des domaines qui à leurs yeux ont une valeur. Pour vous donner quelques noms, on va prendre l'exemple de Margot Ducancel. Margot Ducancel qui a initialement créé un club qui s'appelle Rouge aux Lèvres. C'est un club de dégustation 100% féminin et qui, de fil en aiguille, a réussi à se forger une audience d'environ 23 000 abonnés sur Instagram et qui, chaque jour ou presque, partage avec son audience, qui compte évidemment des femmes, les membres de son club, mais aussi maintenant des hommes, partage ses impressions sur des nectars qu'elle déguste à l'envi, des domaines qu'elle visite, etc.
Vous évoquiez Instagram. Sur quelle plateforme les retrouve-t-on le plus souvent, hormis Instagram ?
Instagram, pour le coup, c'est vraiment la vitrine numéro un, et pour cause. C'est vraiment un média social sur lequel on peut énormément laisser libre cours à sa créativité. C'est un média social extrêmement réactif, qui permet des mises en scène extrêmement diverses, et qui a surtout, on va dire, une force de frappe extrêmement forte et puissante. Voilà, et c'est aussi ce qui est le plus fréquenté par les millennials. Et les millennials, c'est vraiment une génération qui est la cible numéro un des marques de vin et des marques, y compris des marques de luxe d'ailleurs. Mais Instagram reste numéro un, Facebook aussi, dans un autre genre. Certains disent que c'est quand même un peu plus café du commerce en quelque sorte que, qu'Instagram, surtout les possibilités sont moindres. LinkedIn étant réservé à, on va dire, des rapports beaucoup plus professionnels et s'adresse à une audience qui est déjà dans le monde du vin, qui suit, voilà, qui suit tel ou tel domaine, tel ou tel château et qui a vraiment un volet beaucoup plus économique.
Alors, une influenceuse mode, par exemple, on n'a pas trop de mal à imaginer de quelle manière elle présente des vêtements, ce qu'elle peut montrer à l'appareil ou à la caméra. Le vin a certes une robe, mais c'est quand même moins spectaculaire, surtout lorsqu'il y a cette mise à distance. À quoi ça ressemble une vidéo d'influenceur dans le vin ?
Une vidéo d'influenceur dans le vin, ça peut prendre mille formes. Ça peut être, par exemple, un tour en hélicoptère au-dessus des vignobles parce que l'influenceur a été invité par un propriétaire à visiter et sa propriété et son chai, voilà, et le moment des vendanges. Ça peut être quasiment une sorte de clip, si vous voulez, quasi publicitaire, hein, c'est vrai, parce qu'on s'en rapproche par certains aspects. Ça peut être un échange, une dégustation en live. Il y a eu beaucoup pendant le confinement de live dégustation, de e-testing, où un influenceur ou une influenceuse se connectait avec un propriétaire, avec un maître de chai, avec un sommelier et à distance. Ils échangeaient sur un vin qu'ils étaient chacun de leur côté en train de déguster. Voilà, donc ça aussi, c'est une manière d'impliquer et de faire participer les abonnés à ce que vit l'influenceur. C'est une sorte d'immersion dans un monde pour lequel déjà il a une attirance, mais il a aussi l'impression d'y appartenir en partageant ces moments-là.
La voilà, la jolie vigne.
Anne-Charlotte, le vin est un milieu réputé assez conservateur. Est-ce que réellement ces nouvelles technologies se sont imposées dans ce domaine ou cela reste marginal ?
Ça s'est imposé et en même temps, il y a encore beaucoup de réticences. Et pour une raison très simple, c'est que les vignerons, les viticulteurs ne savent pas comment s'adresser aux réseaux sociaux. C'est pas dans leur ADN. Ils savent pas faire. Ils sont très familiers des critiques de vin, des journalistes, des auteurs de guides, de notation du vin, notamment Guy Parker. Ils se plieraient en quatre pour avoir une note d'un critique réputé ou un article dans un journal. Savoir parler à une audience qui est beaucoup plus volatile et qui n'a pas le même langage, c'est extrêmement, extrêmement difficile pour eux. Certains ont même une vraie réticence, vous avez raison, une crainte aussi de voir leur image leur échapper. C'est-à-dire que si je prends les grandes marques de champagne qui vraiment sont un marqueur social extrêmement fort et qui surtout sont synonymes de luxe, donc de contrôle de l'image, livrer ces produits à des influenceurs dont on ne sait pas exactement ce qu'ils vont en faire derrière. Voilà, les marques hésitent énormément. On peut les comprendre parce qu'il y a des dérives qui sont possibles. Et aujourd'hui, tout le monde pourrait presque être influenceur. Encore faut-il savoir le faire et bien le faire avec honnêteté.
Eh bien, justement, on va parler des dérives un tout petit peu plus tard. Mais dans tous les domaines, il y a des influenceurs compétents, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ces derniers ont parfois une audience plus importante que les autres. Est-ce que c'est le cas dans le vin ? Est-ce que ce sont des spécialistes qui sont les plus suivis ?
Pas forcément. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si on prend l'exemple de Benoît Lefebvre, qui est un ch'ti installé au Québec, dont le compte Instagram s'appelle Vino to Travel, Lui n'est absolument pas expert du vin. C'est un amateur éclairé, qui a un boulot, qui n'a rien à voir avec, avec le vin d'ailleurs. C'est juste un passionné. Et il compte quand même 43 000 abonnés. Ce qui n'est pas négligeable. Et lui, il le dit lui-même, son intérêt est uniquement de dire ce qu'il a aimé. Non pas si un vin est bon ou pas, mais ce qu'il a aimé. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, en vous projetant un petit peu, vous imaginer que Benoît Lefebvre est en fait un de vos amis qui va vous inviter à dîner et vous faire découvrir un soir une bouteille qu'il a découverte, qu'il a aimée, en vous disant « bah tiens, ce soir, je vais vous faire goûter ça parce que voilà, ça m'a plu, c'est un petit vin d'un producteur, ça vient de c'est un vin d'Israël par exemple, c'est pas très connu mais vous allez voir, voilà ». Donc il a ce côté extrêmement proche, ça pourrait presque être, je vous dis, un ami, votre voisin de palier, et en jouant la carte de la proximité, et surtout sans utiliser un langage qui soit un langage trop technique, trop spécialisé, trop pointu. Il sait vous décrire un vin et en parler avec cœur. Et je pense que c'est ce que l'audience recherche aussi. C'est une forme d'honnêteté, de transparence et pas de chichi, en fait. C'est démocratiser la consommation du vin sans en faire des tonnes.
Anne-Charlotte, quel est le regard que porte la partie progressiste du milieu du vin sur cette place grandissante des influenceurs ? On ne parle pas là de ceux qui, par principe, rejettent la modernité, mais des autres. Est-ce qu'ils identifient des dérives possibles ou pour eux, c'est une bonne chose ?
Alors, on parlait tout à l'heure de ces marques qui ont peur que leur image leur échappe, et des dérives, évidemment, il y en a. C'est-à-dire qu'il peut en y en avoir soit parce que certains influenceurs font payer leurs publications de manière excessive. Les partenariats, ça existe. Ça doit même être revendiqué et affiché comme tel dans toute publication, ce qu'on appelle une publication sponsorisée. C'est-à-dire que si un influenceur se fait payer par une marque, par un château, par un vin, un vigneron, pour parler du produit en lui-même, ça doit être précisé. C'est payant. Alors, c'est un sujet assez tabou chez les influenceurs du vin, enfin, chez tous les influenceurs d'une manière générale, je pense, mais encore plus chez les influenceurs du vin. On m'a donné quelques exemples. Une story, qui est finalement une publication assez éphémère, peut être facturée environ 50 euros, là où un post en vaudra 300. Des dérives, il y en a. C'est-à-dire que certains influenceurs sont prêts à parler de tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Ça, c'est un peu le gros hic. Et donc, on va dire qu'en face, les domaines se méfient énormément et n'ont pas envie d'être associés, finalement, ou que leur vin soit associé à des influenceurs, finalement, non seulement assez peu connaisseurs pour certains, mais aussi, voilà, qui abusent un peu de ce système-là. Et puis, effectivement, on m'a écrit récemment, suite à la publication de cet article, quelqu'un m'a écrit que des marques étaient aussi victimes quasiment de chantage de la part de certains influenceurs qui souhaitaient à tout prix collaborer avec eux et demander des sommes dingues pour pouvoir publier et gagner de l'audience. Voilà. Et puis il y a ces influenceurs qui achètent leur audience aussi, ça c'est très fréquent sur les réseaux sociaux, et qui finalement achètent et payent pour gagner des abonnés qui sont en fait des faux abonnés.
Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel.
Il y a une tendance globale dans le vin. Les grands noms n'ont en général pas trop de mal à s'en sortir. Pour les appellations plus ordinaires, il faut absolument se diversifier, proposer de l'hébergement, de la restauration, de l'œnotourisme par exemple. Est-ce qu'on est dans cette logique ? Est-ce que ces réseaux sociaux, ces influenceurs, permettent d'aller chercher de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés ?
Oui, clairement. Avoir un compte Instagram aujourd'hui, par exemple, c'est déjà une manière de dire « j'existe ». Vous connaissez comme moi le nombre de vins qui existent en France et dans le monde, le nombre de châteaux, le nombre de terroirs. Et pouvoir aujourd'hui, en quelques clics, créer un compte et montrer au reste du monde qu'on existe, c'est déjà un plus. Ça fait partie de la carte d'identité, de la carte de visite d'un domaine. Simplement, ça s'entretient. Et ça, tous les vignerons ne savent pas le faire. Ça s'apprend. C'est un langage qui s'apprend, ça demande du temps, ça peut être extrêmement chronophage au début, et pourtant ça paye. C'est aussi une manière de créer un lien différent avec une clientèle potentielle, de partager avec elle autre chose que, effectivement, de l'œnotourisme classique, et Dieu sait si ils en ont été privés ces 8 derniers mois. C'est une manière de leur faire vivre des expériences. Alors certains y sont réticents parce que le côté virtuel finalement leur laisse penser que ça manquera d'authenticité, et finalement ça a un côté extrêmement ludique. Et aujourd'hui, je pense que les amateurs de vin sont également en quête de ce genre de lien, d'expérience, et ça sert l'image de vigneron qui l'utilise, tout simplement.
Vous disiez quelque chose de très fort, on a besoin d'exister. C'est ma dernière question, Anne-Charlotte. Est-ce que vous pensez que demain, un château viticole pourra exister sans être présent sur les réseaux sociaux ?
Quand on sait que les passionnés de vin, les amateurs, les consommateurs réguliers, selon une étude de SoWine dont je parle dans l'article, suivent à 40% les conseils donnés par les prescripteurs sur les réseaux sociaux, je vois difficilement comment un château pourrait ne pas s'impliquer dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils le disent tous, tous les experts, tous les observateurs le disent, ne pas interagir avec sa communauté, ne pas prendre la peine de lui répondre, même si elle est au bout du monde, c'est pire qu'une erreur, c'est une faute professionnelle. Donc non, je pense... Alors, il y en aura toujours pour ne pas le faire, évidemment, tout comme des vignerons, des châteaux, des vins n'ont pas forcément besoin ni de publicité, et même s'emploient à ne pas en faire, justement pour garder ce côté un peu confidentiel, réservé aux initiés. Ça marche, mais ça peut aussi ne pas marcher. Donc aujourd'hui, exister sur les réseaux sociaux, oui. On en est même arrivé à un point où les influenceurs, et là c'est finalement ce cercle qui se referme, les influenceurs eux-mêmes créent leur propre agence de conseil en stratégie digitale et en communication digitale pour aider des vignerons à émerger sur des réseaux sociaux comme Instagram.
Merci beaucoup Anne-Charlotte Delange d'être venue au micro de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru dans Les Échos Week-end et que l'on peut retrouver également sur le site du titre « Comment les influenceurs bousculent le monde du vin ». C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Leuil et Marion Ruot. Programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.